bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale, la dernière bande originale de la semaine, sans Nagui mais avec Albert Algou.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Alexis Laurent Signol. Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau, bien sûr, pour maltraiter l'info. Et Leïla Kaddour Bounadi.
Salut à tous, nos invités aujourd'hui dans la bande originale, François Cluzet et Gilles Lellouche.
Bravo.
Bravo. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus au micro de la bande originale.
Merci.
Comment ça va ?
Ça va parfaitement.
Ouais, vous êtes de retour sur grand écran pour notre plus grand plaisir. Nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet, avec à vos côtés Marion Cotillard, Laurent Lafitte de la Comédie Française, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, Clémentine Bert, Valérie Bonneton, José Garcia. Une joyeuse bande qui nous avait manqué. Parce que ça fait combien de temps, François ?
8 ans.
Depuis les petits mouchoirs.
Ouais. 9 ans. Oui, pour nous, c'était aussi assez surréaliste de retrouver les mêmes partenaires, ayant vieilli de 9 ans, et aussi le scénario est très bien foutu, qui nous a fait évoluer dans nos relations. Donc, retrouver ces acteurs-là et dans cette situation nouvelle, c'était vraiment très agréable.
Et retrouver votre personnage aussi, Gilles Lellouche, voir ce qu'il est devenu en 9 ans, parce que on peut imaginer qu'entre-temps, ce personnage a évolué, forcément. Vous avez le nouveau scénario, et vous vous dites, qu'est-ce qu'il a fait de moi, Guillaume Canet ?
Oui, c'est assez inédit, puis c'est assez rare en fait pour des acteurs de retrouver des personnages comme ça. Donc c'est vrai qu'il nous a tous bien fait évoluer. Enfin bien, je sais pas si c'est le mot.
Bien.
Je suis pas sûr que ce soit le mot, mais en tout cas évoluer. Mais c'est vrai comme le dit François, c'était assez magique quoi de retrouver ces personnages, ces décors là. Se retrouver tous, cette bande qui est une bande de copains sans l'aide vraiment et qui en fait partie comme ça dans notre subconscient d'une vraie bande d'amis en fait. On l'a vécu sur Nage il y a 9 ans, il a été assez c'est un film Les Petits Mouchoirs qui a quand même pour la plupart changer notre carrière, enfin moi en tout cas la mienne c'est sûr. Ouais. Donc c'est vrai que de se retrouver comme ça c'était extrêmement émouvant. Ouais.
Mais c'est un endroit que vous connaissez bien, vous y allez souvent et puis il y a le décor naturel formidable du bassin d'Arcachon.
Ouais, c'est splendide, ouais. C'est vraiment splendide. Ouais.
Moi je
l'ai connu à une époque où il était
moins touristique. Moins touristique. Bon, on va y revenir à cette histoire, à ce film, à cette bande de potes qui est devenue un peu la nôtre aussi avec les années. Mais avant ça quelques questions sur Gilles Lellouche. Et sur François Cluzet pour voir si vous avez bien préparé.
Vous ne répondez pas.
Vos devoirs. Première question. Que disait souvent le père de Gilles Lellouche ?
Arrête.
Le nom. Faut compléter. Le nom, tu l'as déjà.
Il faut te faire un prénom.
Le nom N-O-N. Le nom, tu l'as déjà.
Espère-le peut-être.
Non.
Pas loin,
oui. Alors pose pas la question.
Bah ouais, François. C'est exactement ça, va chercher le oui.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Mais c'est ça, non, mais c'est à chaque fois que j'hésitais, ou je disais ouais, mais machin, il fait, mais de toute façon, le nom, tu l'as déjà, ça y est, c'est bon, c'est sûr que c'est non. Alors va chercher le oui, tu risques rien. Voilà, au pire, t'as le nom, ça, t'es déjà au courant, donc va chercher le oui. C'était une preuve de courage, ouais, qu'il me donnait, ouais.
Et ça donne des ailes, ça sauve des coups dans la vie.
Ouais, ça
change,
donne des ailes, pas que, parce qu'il pour une phrase comme ça, il en avait d'autres beaucoup plus assassines. mais bien sûr, ça donne des ailes.
Évidemment. Ouais. Il y a certains projets, par exemple, où vous vous êtes dit, j'ai bien fait de suivre la sentence paternelle.
Ouais. Par exemple, sur mon film Le Grand Bain, quand je suis allé chercher Mathieu Amalric, par exemple, qui fait pas totalement partie de ma famille d'acteurs, pas du tout même. Je me suis dit tiens, bon, je vais lui proposer. On sait jamais. Et je me suis dit le nom tu l'as pas, tu l'as déjà. Je veux dire, alors va chercher Louis. Et ça a été un oui tout de suite. Donc je me suis dit, j'ai pensé à mon papa. Je me suis dit c'est une bonne maxime.
Va chercher Louis, c'était Amalric.
Exactement.
Et combien de millions de spectateurs pour Le Grand Bain maintenant ?
Eh bien 4,5 millions.
C'est complètement dingue.
Ouais, c'est complètement dingue. Je commence à réaliser maintenant en fait.
Ouais. On s'en remet un petit peu progressivement.
Ouais, on s'en remet heureusement, mais c'est vrai que c'est quand on est dans la machine de la promotion, quand on est dans ce bain qui est quand même assez tumultueux et qu'on est dans la sortie du film, on prend pas forcément la mesure de ce qui se passe. Et maintenant que les choses se calment, que je réalise. Que c'est un rêve en fait, c'est vraiment un rêve.
Descend sur terre.
Il y a du miracle dans le succès, dans le cinéma. Il y a vraiment l'exception qui confirme.
On va parler d'Intouchables aussi, donc vous vous tirez un peu la bourre avec Guillaume Canet, c'est ça l'idée là, pour nous finirons ensemble, c'est savoir celui qui va dépasser les 4 millions. Enfin,
franchement, j'espère qu'il va me battre, ouais. Mais j'aurai un peu les boules quand même.
Ouais, ce que j'allais dire, tu vas me battre, mais non.
Oui, non, en fait.
Question concernant François, s'il pouvait, François viendrait tous les matins habillé comment?
En pyjama.
Non. Vous l'avez déclaré dans Les Échos en 2014, donc c'est
en
hyper
costume.
Sérieux.
En
non,
soutane.
Non plus.
En robe.
Non plus.
En kimono.
Non plus.
En kilt.
En
kilt.
Non
kilt.
Plus, mais ça s'approche le kilt.
En jeunesse. Voilà. En robe de chambre.
Non. Pourquoi tu me regardes?
En caleçon tous les matins.
En caleçon de bain.
En kimono.
Allez, on va dire
en
à Alexis.
C'est
en
quoi?
Short.
En short.
En short.
Ouais.
J'ai dit ça.
Oui, vous avez dit ça.
Ah, oui. Alors, on le sent que vous n'avez pas envie de répondre.
Alors, je vais revoir mes shorts.
Alors, attendez, il faut faire la citation. J'adore mes shorts. Si je m'écoutais, je ne porterais que. Néanmoins, ils sont objectivement assez laids, comme tous les shorts. Il y a une.
Ça, c'est lucide.
Ouais. Les Échos 2014, il y a une sorte de petite philo du short.
Oui, et puis alors, ça doit être le fait de vivre souvent dans le Sud, où vraiment le short a un avantage sur le pantalon, c'est qu'il vous couvre moins. C'est une palissade.
C'est pas faux.
Mais c'est très agréable.
Pourtant, vous avez un beau bas de jogging dans le film.
Oui, je pense que là, on a bien choisi.
Vous n'allez pas jusqu'au pantacourt?
Non, alors non. Il faudrait que... Mais alors, dans un rôle. Dans la vie, non, mais dans un rôle, j'aimerais beaucoup.
C'est un crime.
C'est un scandale. Question concernant Gilles. Qu'est-ce qu'il lit, Gilles, au film Elephant Man?
Le faciès.
C'est dégueulasse. Albert.
Fallait rajouter sans être désagréable.
On sait accueillir.
Qu'est-ce qui le lie à Elephant Man?
Quel est le lien entre Gilles Lelouch et Elephant Man?
Il y a une histoire de surnom.
C'est le premier film qu'il a vu?
C'est le premier film qu'il a vu?
Non, non plus.
Non. Il sort de surnom.
Vraiment pas là.
J'aimerais bien, mais
ouais,
non,
ouais, non. On l'appelle Elephant Man.
Au foot, c'est très étrange.
C'est lié à John Hurt?
C'est lié à
l'acteur John Hurt?
Non.
Non plus?
Non, c'est lié à l'activité de Gilles Lelouch. Aussi, potentiellement.
Il faut que je réponde là?
Non.
D'accord.
Il a travaillé dans un cirque?
Non. Non. Qu'est-ce que pourrait avoir envie de faire Gilles Lelouch avec
Elephant Man?
L'orthophonie.
Ah, bah, faire un remake?
Ouais, éventuellement, on va dire ça, l'adapter, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, vous avez racheté les droits.
Alors, non.
Du film?
Alors, oui, non. En fait, j'ai acheté les droits de la pièce de théâtre.
Ah, d'accord.
Que j'ai vue à Londres, jouée par Bradley Cooper il y a 5 ans.
Ouais.
4 ans. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était un spectacle de dingue. Et j'ai acheté les droits de la pièce. Et hélas, comme je suis pas un mec super rapide, j'ai pas fait l'adaptation, donc j'ai perdu les droits. Et là j'ai vu que la pièce se montait avec Joe Star et Béatrice Dalle. Oui, donc je suis ravi pour eux et tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus rapide. Mais je peux pas tout faire en même temps, donc j'avais cette envie très forte de jouer Elephant Man. Et puis aussi Benoît Poulvord, quand je lui ai dit ça, c'est tellement foutu de ma gueule qu'il m'a un peu calmé sur le projet. Il m'a dit mais tu te vois entrer avec ta fausse rompe en train de faire une coupe de thé s'il vous plaît, monsieur. Tu vas être ridicule. Ça m'a un peu calmé sur l'idée. Ouais.
Et donc Joey Star, ça va donner ça, vous pensez?
Je sais pas ce que ça va être avec Joey Star. Ça va être un peu plus grave dans la voix, je pense. Mais mais je sais pas ce que ça va donner. Ouais, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais.
Surtout au théâtre, tout d'un coup sur les planches.
Mais à la base, en fait, c'est une pièce. En fait, à la base, c'est une pièce qui a été adaptée ensuite par David Lynch. Mais la pièce est vraiment formidable, ouais. Ouais. Après, c'est une performance d'acteur.
C'est ça. Ouais. Et ça colle peut-être un peu à la peau. François Cluzet, à Paris, une touriste aborde François pour le féliciter pour son rôle dans Intouchables. Pourquoi est-ce que François était complètement scotché? On est à Paris.
Il a été félicité et cette félicitation l'a scotché.
Ça ouais, s'en souvient il pas. Il a été complètement scotché par les félicitations. Alors,
c'est d'une comédienne.
C'est TV Mag Le Figaro 2017, François.
C'est la personne qui est venue le voir qui l'a scotché.
Cette personne lui dit voilà, François, connue. Vous avez été exceptionnel dans Intouchables.
Est-ce que c'est une personne elle n'est pas connue.
Cette personne, cette touriste, est juste une touriste, mais ça a beaucoup étonné François.
Alors,
en fauteuil roulant.
Non.
C'est une touriste étrangère?
Oui.
Et ça a un lien avec la langue?
C'est en lien avec le pays, en tout cas. Ouais.
Ah, bah, elle lui a fait ça sous une burqa.
Non. Je sais pas pourquoi vous êtes super
chouette. Vas-y, pourquoi pas?
Non, je vous ai
remarqué.
Elle venait de Corée du Sud.
Oui.
C'est complètement dingue.
Oui, non, c'est l'aventure d'Intouchable, ouais. C'est complètement dingue. C'est dingue. Je suis allé à Pékin, les gens me demandaient des autographes. En Russie, pareil. Oui, alors cette femme était très, très drôle, puisqu'elle parlait pratiquement pas français, mais elle avait vu le film. Non, je pense un peu comme le succès de Gilles avec Le Grand Bain, c'est que ça nous dépasse. Ouais. Ça nous dépasse. Donc là, la chance qu'on a eue aussi, c'est que le film a fait près de 50 millions d'entrées dans le monde. Donc c'est une espèce de passeport.
Finalement, 50 moi, qui millions, Gilles.
Oui.
Non mais dans le
ah, c'était pour te prévenir.
Ah oui, oh, non mais moi je suis un Mickey à côté. Moi je suis pas dans la même cour.
Ouais. Donc c'était un peu dément. C'est un passeport pour aller à l'étranger.
On vous reconnaît partout, on vous accueille partout.
Oui, parce que j'ai fait quand même 90 films et notamment Ne le dis à personne, qui était un gros succès. Les petits mouchoirs, c'était un gros succès. Mais alors là, ça dépasse les frontières. Bon, c'est formidable.
Et vous, Gilles, le Grand Bain aussi, voyage.
Ouais. Là, ouais. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, au contraire d'Intouchable qui marchait dans tous les pays dans lesquels il sortait, c'était vraiment un sujet universel, le mien, ça marche dans des pays et dans d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que ça cartonne en Italie, pas en Espagne.
Pourquoi ?
Ouais. Je ne sais pas du tout. En Russie, c'est un flop absolu. en Australie, où j'ai sorti le film là il y a 3 semaines, il faut 3 semaines d'attente pour pouvoir aller voir le film tellement il y a du monde. C'est très très étonnant. Donc suivant les pays, ça fonctionne ou pas. Donc je ne ferai pas les 50 millions, ça c'est sûr.
C'est une Australienne qui a inventé la natation synchronisée.
C'est vrai.
C'est peut-être pour ça. Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'ils ont une passion.
Annette Kellerman. Hein.
Eh ben voilà là.
Femme extraordinaire.
Eh ben tout s'explique.
Voilà l'explication. Voilà. Tout s'explique. Nécessairement. En tout cas, on souhaite à Nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet, le même destin qu'Intouchable, que le Grand Bain aussi en France et en dehors de nos frontières, avec un casting de copains. Parce que j'ai la sensation que c'est devenu ça aussi. Cette aventure entre les petits mouchoirs et maintenant, c'est une équipe.
Oui, c'est une équipe, c'est une troupe. On est entre acteurs, on se connaît très bien. La chance qu'on a en tant que partenaire, c'est d'avoir les qualités de ces acteurs.
Ouais.
Bon, Gilles est à côté de moi, mais Magimel, Cotillard, même les nouveaux arrivés, Clémentine Barre et José Garcia. Oui, c'est-à-dire que ce qui nous rapproche aussi, ça a été... Bon, le succès est toujours fédérateur. Donc le premier film a eu un tel accueil qu'on est évidemment très très contents. Maintenant, 9 ans plus tard, de retrouver tous ces gars-là et ces filles-là, alors qu'ils ont évolué dans leur propre vie, le scénario a été vachement bien foutu. Donc on s'est retrouvés un peu...
Vous avez fait une lecture collective.
Ouais, on a fait une lecture.
On sait que Guillaume Canet aime bien réunir ses comédiens, les faire un peu vivre aussi ensemble.
Oui, oui, oui. Puis alors lui, vous savez, c'est un perfectionniste. Il travaille sans affect. Donc c'est pour ça, je pense qu'il aime bien travailler avec des gens qu'il apprécie, parce qu'il n'y a pas d'affect. C'est le boulot, quoi, toute la journée. Donc pour nous, c'est une espèce de charge de...
Ah oui,
bon, on aime beaucoup Guillaume, donc on traverse le tournage, quoi. Mais c'est un bosseur insensé.
C'est vrai, ça,
ça veut dire que vous ne voulez pas d'être froid et distant pendant tout le tournage que vous avez fait.
Non, parce qu'aussi, avec le métier qu'on a, on se rend compte du travail qu'il accomplit, c'est-à-dire la mise en scène, 7 acteurs ou 8 acteurs en permanence, c'est très compliqué, les films de groupe. Donc on le laisse avancer, quoi. C'est un peu une leçon de mise en scène aussi à chaque fois.
Hein. Gilles ?
Ouais, non, c'est des tournages à chaque fois, que ce soit le premier ou le deuxième. C'est vrai que c'est des tournages qui sont particuliers, parce que pour lui, il a créé un monstre, en fait, parce qu'il a créé une bande d'amis comme ça qui vivent entre les prises. On est bien obligé, quand on a des scènes de dîner, on est obligé de continuer à créer cette ambiance et cette humeur, etc. Sauf que Guillaume a besoin de se concentrer. Il voudrait qu'à chaque coupure de plan, on s'arrête de parler, de vivre automatiquement, ce qui n'est absolument pas possible, parce qu'on est une sorte de dynamo qui s'arrête jamais, une dynamo un peu pénible pour lui, j'imagine, mais pour avoir moi aussi dirigé des acteurs en groupe, c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'on a besoin d'avoir son attention faite et particulière sur chaque acteur, avoir quelque chose à dire sur chaque acteur, donc avoir sa mémoire comme ça, et donc quand il y a un brouhaha, un bordel, etc., c'est très compliqué. Bon, après, par exemple, Guillaume n'a pas eu Poulvorde dans son film.
Mmh.
Voilà.
Donc,
il a quand même des gens relativement calmes, finalement. Mais à la décharge de Guillaume, c'est vrai que il a été très courageux de faire cette suite, parce qu'on était tous assez timide à l'idée, voire réfractaire, pour être honnête.
Ouais.
On avait très peur, on se disait, le film ayant rencontré un tel succès,
La guerre des égaux aussi, des acteurs.
Ouais, puis on n'avait pas envie de faire une suite inutile, qui n'ait pas de sens et qui soit juste un coup marketing. Donc on a été un peu virulent avec lui sur la qualité de l'écriture. La première lecture qu'on a pu faire ensemble était plus âpre et plus douloureuse que sur le premier opus, parce que effectivement, comme vous l'avez dit sur le premier volet, on s'est tous retrouvés au Cap Ferret pendant 2-3 jours. Les choses étaient fraîches, neuves, inédites, donc il y avait une espèce de souffle qui n'avait rien à voir avec le deuxième ou avec nos emplois du temps respectifs maintenant, puisqu'on a tous grandi aussi dans nos carrières. C'était plus compliqué de nous réunir. Donc c'était des moments plus douloureux pour lui, je pense.
C'est vrai.
Et en plus, maintenant, vous êtes un réalisateur millionnaire en spectateur. Il n'y a pas une autre exigence maintenant en plus quand vous débarquez sur un tournage?
En tout cas, pas l'exigence que j'ai, c'est justement d'être avec des réalisateurs exigeants. Parce que c'est le cas de Guillaume. S'il y a bien quelque chose qui est respectable, c'est d'avoir un réalisateur qui a une envie, qui a une vision. Je préfère un réalisateur autoritaire qu'un réalisateur sympathique qui me fait faire de la merde. Hein, vous voyez.
Voilà. Ça s'entend.
Ça s'entend.
Nous finirons ensemble ce nouveau film de Guillaume Canet qui s'ouvre avec cette musique et une très très belle bande originale dans ce film. It's all over now, Baby Blue. Alors, on va essayer de pas trop dévoiler l'intrigue du film. Tout ce qu'on peut raconter, c'est que le film s'ouvre sur vous, François Cluzet, ce personnage de Max qu'on aime tant, qui a un petit côté râleur comme toujours, un peu râleur, un peu agacé partout. On sait jamais vraiment pourquoi, mais on vous aime naturellement. Il y a un truc quand même qui est assez fou dans ce personnage.
Oui, c'est sa nature. Il est comme ça. Il est maniaque à l'excès. Et puis, c'est ce genre de types qui sont très chiants à vivre. C'est que c'est des donneurs de leçons en permanence.
Ouais.
Hein, dans le premier, quand Marion me dit t'as pris une serviette, je dis oui, c'est-à-dire que quand on va se baigner, généralement on prend une serviette. C'est le mec qui a une réponse absolument.
C'est l'enfer.
Il peut pas juste dire oui. Voilà.
Il est chiant comme la pluie, donc finalement c'est pour ça que ses potes voulant aller en
Daniel
vacances.
Pardon. Il a vu Daniel Morin un peu.
Oui, exactement.
Et donc le film s'ouvre sur votre personnage, on le voit s'agiter, on le voit ranger, on se dit voyez, c'est reparti, l'accueil des potes, on est reparti pour une nouvelle aventure, et en fait on saisit assez vite, et je dévoile rien là encore, c'est dans la bande-annonce, ouais, que les potes arrivent, se cache pour une surprise et que la réaction de votre personnage, elle est bien raide comme il faut. Qu'est-ce que vous foutez là?
Bah oui, c'est-à-dire que bon, finalement tout ça remonte aussi à la mort de leur ami Ludo. Et puis tout a éclaté finalement dans le groupe et notamment pour Max où il s'est séparé de sa femme, où il a plus contact avec ses amis. Donc, il y a une situation où il a perdu confiance, il est en légère déprime, même finalement pas légère, en déprime totale.
Ouais.
Et donc, ça renforce un peu son caractère d'exigence et cette espèce d'éthique incroyable qui se transforme en donneur de leçons. C'est-à-dire, non, il faut pas faire ça, faut faire ça, ça, il faut pas faire ça. Mais Guillaume, il est un peu comme ça aussi. Il y a de son personnage.
Ouais.
Oui, moi, à chaque anniversaire, Guillaume, je lui offre un aspirateur, un petit aspirateur.
Ah bah c'est normal qu'il soit un peu énervé.
Voilà. Parce que je m'en rappelle, et tu y étais, on était chez lui une fois, et il y avait absolument 3 miettes microscopiques sur la table. Il a dû arrêter de travailler, puis obsédé par les 3 miettes pour aller les aspirer. Quoi.
C'est sympa quand vous faites une fête avec 50 personnes chez vous, évidemment. Voilà,
ouais.
Vous êtes bien détendu. Vous voyez.
Ça annonce un petit peu la couleur, Alexis. Voilà.
Est-ce que vous êtes potes entre vous? Vous voyez souvent ce genre de... Le film, en fait, est un reflet de votre vie privée.
Pour Gilles et Guillaume, ils sont très amis.
Ouais. Ouais, moi, je suis très copain avec Guillaume et Marion. Et Laurent Lafitte aussi est mon ami depuis toujours, puisque j'étais au cours Florent avec lui.
Il faut dire que Laurent Lafitte prend particulièrement cher dans ce film.
Ouais.
Laurent Lafitte est complètement dingue. Il y a des scènes qui seront cultes. Là encore, c'est dans la bande-annonce. On voit qu'il a une petite déformation faciale. Ouais. On n'expliquera pas pourquoi.
Petite complication.
Et puis il y a une scène qui va devenir nécessairement culte. C'est le saut en parachute. Là, on peut pas faire autrement.
Ça, c'est une scène... tant mieux, parce que c'était éprouvant.
C'est vrai. Vous avez un mauvais souvenir, François.
Moi, j'ai le vertige. Donc, sauter de 2 mètres, déjà un exploit. Et là, c'était complètement dingue, quoi. D'abord, on s'est mis d'accord parce qu'il m'a dit, les autres vont faire 3 sauts, tu n'en feras que 2. Je lui ai dit, on est bien d'accord, que 2. Déjà, 2, ça me paraissait épouvantable. Après avoir découvert le premier, j'avais un mal fou à remonter. Non, pour les acteurs, quand c'est dans le script, le problème est réglé.
Vous pouviez pas dire au départ, non, attends.
Vous refusez le script à ce moment-là. Puis moi, Guillaume, je lui dois beaucoup. Donc, dès lors qu'il a mis ça dans son script, je vais y aller. Voilà, ce qui était un peu singulier, c'est qu'on était dans cette avion à 4000 mètres et il le raconte. Finalement, Marion saute, Laurent saute et ensuite je m'apprête à sauter. Je suis à l'extérieur, les jambes ballonnent comme ça. Mon texte c'est je veux pas mourir. Le mec me dit moi non plus. Et à ce moment-là,
ça, c'est terrible. Le mec est derrière vous qui est censé vous sécuriser, dit moi non plus.
Oui, oui. Et le pilote de l'avion dit ah là il peut plus sauter, il faut faire le tour parce qu'on est trop loin du centre de largage.
Des jambes dans le vide.
Oui, des jambes dans le vide. Donc on fait tout un tour pour se remettre en place et à ce moment-là Guillaume en profite pour me dire refais ton texte. Donc je dis une quinzaine de fois je veux pas mourir. Moi non plus, dit l'autre. Je veux pas mourir. Refais-le. Je veux pas mourir. Moi non plus. Et finalement je saute et là Guillaume se dit putain, s'il lui arrive quelque chose, ses derniers mots c'est je veux pas mourir. Moi, bon, j'ai détesté ça.
T'as pris aucun plaisir.
Ah non, j'ai détesté. Et alors, ce qui était drôle, c'est que je devais avoir peur dans le rôle.
Oui.
Donc, évidemment, j'étais concentré sur la scène où je dois avoir peur. En fait, moi, je n'avais pas si peur que ça, parce que je ne me rendais pas compte ce que c'était de se livrer dans le vide comme ça. Mais bon, c'est... Et à la fin, à la réception, je devais dire que c'était génial. Donc, je joue, c'était génial. Et puis, finalement, la scène est terminée. Guillaume me dit, bon, alors, t'es content? Je lui dis, j'ai détesté, j'en ferai plus jamais ça. Passage de
l'un à l'autre. En tout cas, voilà, cette bande de potes se reforme pour les 60 ans de Max. C'est la surprise. Et on sent qu'il y a un froid particulier entre cette bande et vous, Max, depuis en effet la disparition de Ludo qui a bouleversé votre vie intime, même votre équilibre financier.
Tout ça
est compliqué. Et on sent qu'il a une dent en particulier contre votre personnage à vous, Gilles Lellouch, qui est devenu un papa, qui a un petit bébé, qui s'occupe seul de sa fille et qui, là encore, il s'est un peu inspiré de votre vie, j'imagine, Guillaume Canet.
Pourquoi vous dites ça? Mais oui, non, puis c'est surtout
que
mon personnage est devenu une sorte de star de cinéma, donc
qui
a fait carrière, donc qui a les moyens, donc qui a de son côté pu inviter les autres en Corse dans une maison, donc qui a fait de la concurrence directe à Max, et certainement parce que Max devenait un peu trop chiant, donc voilà. Donc c'est le temps qui passe, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont de l'ordre du vécu.
Inspiré, je sais pas jusqu'où, oui. Hein, mais il y a quelques éléments comme ça qui sont disséminés ça ou là, avec une babysitter exceptionnelle.
Oui, une sorte de Goebbels.
De Cerber. Ouais.
C'est ce qu'il faut pour les gamins.
Une panzérine.
Une folle furieuse.
Parce que c'est aussi ça, on retrouve les personnages qu'on a aimés dans le premier, et puis on continue à développer aussi les personnages autour, avec des rôles qu'on pourrait considérer comme secondaires, mais qui étoffent toute cette histoire et qui rendent en effet vraiment ce moment très agréable. Nous finirons ensemble.
Cette relation avec la babysitter, avec votre personnage, Lellouch, qui est assez rentre-dedans, qui est assez caché, qui pour le coup prend des pincettes, mais colossales avec cette femme, parce qu'il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, il est parti en vacances, c'est elle ou rien, donc s'il est tout seul, il est en panique, donc il est bien obligé de la supporter,
ouais,
cette espèce de folle.
Ça sera en salle mercredi prochain, et ce sera forcément un succès, mon cher maréchal.
Maréchal
Dominique, Jean-Dominique.
C'est Jean-Dominique.
Mais ça n'a rien à voir physiquement.
Mais j'adore le maréchal.
Non, c'est gentil pour lui, mais il est malade, il a l'hospice des bleus blancs.
D'accord, ok.
Alors, immense succès, ça c'est sûr. Toutes les conditions sont assemblées. Super scénario, réalisation extra, éclairage sublime, le bassin d'Arcachon, ses huîtres, ses pinasses, le parachute, je veux pas mourir. Et surtout, un casting éblouissant. Dinguissime, comme m'aurait dit Nagui, s'il n'avait pas été arrêté pour exhibitionnisme.
C'est vrai.
Pas facile comme mot, exhibitionnisme. Dans une station-service, pas facile non plus. C'est GNB qui m'a soufflé cette vanne. Bref, ça va cartonner. Et je peux vous dire que mon cousin Dominique, quand il a vu ça, il était jaloux. Pendant la projo, hier, il m'a susurré. Même dans 10%, ils n'ont pas réussi à rassembler plus de stars. C'est vrai, donc nous finirons ensemble. Faudrait toutes les citer, les stars. À commencer, bien sûr, par vous, François Juzet. Vous, Gilles Lellouch. Bon, j'y peux rien, c'est vos noms, hein. Laurent Lafitte, Valérie Bonneton, Marion Cotillard, c'est garanti, son postillon. Ceci dit, cher François, cher Gilles, je vous en veux pas. Dans ce film, vous êtes encore plus sans sas que dans Les Petits Mouchoirs. À ce propos, j'ai été choqué, Daniel.
Oui.
Parce que vous avez dit à GNB, notre rédacteur chef, 5 minutes avant l'émission, quand il vous a résumé le film. Alors, je fais votre voix.
Oui, vous faites mieux que moi, allez-y.
Bah, Guillaume Canet, il s'est pas foulé, il reprend les mêmes et il remet le couvert. C'est le petit mouchoir 2 qu'il aurait dû appeler ça. Mais non, ça aurait fait trop popu, trop tuche, tuche 1, tuche 2, etc. C'est du snobisme bobo, tout ce que je déteste. Mais on tête de nœud.
C'est qui là?
Ah là, c'est GNB qui parle. D'accord. Parce qu'il ne craint que le nagui, le bougre. Nous finirons ensemble, c'est un clin d'œil.
Je suis désolé pour ce petit dérapage.
Un petit dérapage vocal, oui. Challenge Blédina dans la bouche. Nous finirons ensemble, c'est un clin d'œil à Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat. T'es vraiment inculte, en plus d'être laid. Voilà, cher François, cher Gilles, comment je prépare la bande originale. Dans l'hypocrisie, le mépris du cinéma d'auteur, l'amour aveugle des tuches. Bref, j'y vais.
Bravo. Merci Jean-Dominique Besnier. La bande originale.
Sur France Inter. Nous finirons ensemble, et c'est finalement ce qu'on se souhaite à tous avec sa bande de copains. Le nouveau film de Guillaume Canet, 9 ans après Les Petits Mouchoirs qui nous avaient bouleversés. C'est un film très fort qui est dans la mémoire de tous. François Cluzet, on discutait juste avant cette émission. En ce moment, vous présentez le film, puisque le film sort mercredi, donc vous allez à la rencontre du public, vous sillonnez un petit peu la France. J'imagine que c'est des doses d'amour, des décharges d'amour.
Oui, c'est très touchant. Les gens attendaient une suite, on a l'impression, plus que nous encore, parce que comme le disait Gilles, nous quand il en a été question, on regardait le scénario à la loupe, parce qu'on se disait, on a réussi quelque chose, comment ne pas le détruire, quoi. Oui. Mais l'accueil est complètement dément, on était avec Gilles hier à Lille, les gens sont debout, applaudissent, et il faut leur demander d'arrêter, enfin, c'est complètement dément, il y a une espèce de potes aussi, avec tous ces personnages, Laurent, Marion, Gilles, José, Benoît, les gens aiment ces personnages. Et le mien qui est quand même très, 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 très casse-couille, quoi, finalement est très apprécié parce que souvent on m'a dit. Oui, très français. Souvent, on m'a dit, dans ma famille, on dit aussi que je ressemble beaucoup à Max. Donc, ça veut dire, on est nombreux, les Français, à être, à trabiller. Ouais.
Non, mais il est casse-pied, mais on sent aussi qu'il y a une énorme fragilité. C'est pour ça qu'il est attachant.
Peut-être bien, ouais.
J'ai senti ça chez vous.
Oui, merci.
J'ai senti ça. Toute ressemblance avec des personnages.
On retrouve le même cadre, le même endroit, parce que c'est aussi à partir d'un lieu que s'est cristallisée toute cette amitié, avec les problématiques que rencontre le personnage de Max. On essaye de, vous voyez, depuis le début de l'émission, de ne pas dévoiler pour laisser la surprise aux spectateurs des aléas de la vie, une séparation avec le personnage incarné par Valérie Bonneton, qui était votre épouse dans 9 ans plus tôt, en tout cas. Et puis la rencontre aussi. De l'amour, d'une femme qui semble très très amoureuse de vous, pas du tout intéressée par ce que vous pouvez représenter ou être, malgré votre côté bougon. C'est aussi une sorte de renaissance pour votre personnage.
Oui, c'est vrai, elle aime un peu la face cachée de Max. Elle le trouve tendre, attentionné, alors qu'il est d'un égoïsme exceptionnel, quoi. Mais c'est assez beau, cette relation. C'est comme si elle pensait qu'il fallait me protéger, quoi, alors que les autres pensent que je suis plutôt attaquable, quoi. Donc, il y avait une très belle relation avec Clémentine Barre. C'était anti-Max. On peut penser que Max ne rencontrerait jamais plus l'amour. Or, si, finalement, cette face cachée qu'il a de tendresse ou d'attention, fait que ça fonctionne. Et heureusement que ça fonctionne entre deux, parce que c'est bien. Elle aussi, pour beaucoup, qui leur a demandé de venir pour fêter cet anniversaire. Sauf que lui, il râle, évidemment, en disant qu'il ne veut pas fêter cet anniversaire.
On vous retrouve exactement là-dedans. Hein. Juste l'intonation quand vous mettez en colère, c'est jouissif, en fait. C'est hyper drôle. Bon, on préfère pas être en face de vous dans la vraie vie, mais dans le film, ça marche très très bien. Et puis, le groupe aussi qui se reconstitue, ça fait 3 ans que tout le monde n'a pas été réuni, c'est aussi l'occasion. Finalement, les potes, c'est souvent des gens qu'on connaît très très bien, pour qui on peut avoir une petite attirance. Donc là aussi, il va se passer des choses au sein de ce groupe, des révélations, des déclarations. Voilà, l'amour là aussi va pouvoir exister. On peut regarder l'autre un peu.
On peut pas trop en dire.
On dit rien. On peut regarder l'autre différemment. On peut se dire qu'on s'est un peu trompé, que peut-être que il peut se passer quelque chose.
Autre chose à découvrir. Voilà. C'est ce qui arrive quand on est en groupe et c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Mes sentiments sont diffus. Surtout à l'attention d'Alexis Laure aussi. Ouais.
Anecdote aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée mercredi dernier. Mercredi dernier, pas avant-hier, le mercredi dernier d'avant. Mercredi en -8 si vous voulez. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris quoi.
C'est joli.
Bref, la semaine dernière, Ou disons hier, on peut dire hier, ça, en vrai ça change rien à l'anecdote. Et en plus, plus l'anecdote est récente, plus t'as envie de l'écouter. Donc ce matin, on va dire ce matin, il faisait pas chaud ce matin pour un 26 avril. Alors ce matin, je descends acheter du pain et en rentrant chez moi, je vois un monsieur qui promène son chien. Je crois que c'était un bulldog, mais je suis pas sûr. En tout cas, il était large. De derrière, il ressemblait un peu à une caravane pliante sur l'autoroute, vous voyez. Bon, j'y connais rien en chien. Moi, question animal de compagnie, j'ai un lapin. Mais... Non mais c'est bien la pince, c'est génial. Ça miaule pas, ça aboie pas, t'as pas besoin de le sortir. C'est comme si t'avais rien en fait. Bon, c'est pratique. Hein. Bon, question protection de la maison, c'est pas la folie. Mais moi j'ai une technique. Moi je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez. J'ai mis un petit panneau attention aux chiens sur la porte de mon appartement. Voilà. Parce que c'est dissuasif et souvent ça suffit. Si des voleurs se pointent, ils vont se dire pas ici, il y a un chien. Et même, imaginons qu'ils aient une carabine à fléchette pour endormir le chien. Ben ils peuvent pas le faire parce qu'il y a pas de chien. C'est la technique. Et au moins, si vous rentrez chez vous après un cambriolage, vous pouvez vous dire « Bon, bah, ils ont tout pris, mais ils ont épargné le chien. » C'est ouais. Déjà ça. Bref, à un moment donné, le monsieur le détache et le chien s'arrête pile devant chez moi. Pas mon chien, parce que j'en ai pas. Je reviens à l'histoire d'avant, là. Oui. Et là, il fait ses besoins. Des beaux besoins. Franchement, pour la taille du chien, non. C'était flatteur. Toute proportion gardée, un humain qui fait ça, il peut prendre un selfie. Donc là, je regarde le monsieur, le propriétaire du chien, et il se retourne pas. Il continue son chemin à l'air de rien. Alors qu'il sait que son chien vient de faire une commission. Il l'a pas détaché pour chasser une belette, tu vois. Donc moi, je fais quoi? Je hèle le monsieur. Je fais « Hey, hey !» Ça, c'est hélé, tu vois. Donc là, il se retourne, il marche dans ma direction et il me dit « Me fais pas la morale, toi, me fais pas la morale, comme ça. » Moi, je lui dis « Je vous fais pas la morale. Vous ramassez les crottes de votre chien, c'est tout. » J'étais énervé. J'ai failli lui dire « Si vous le faites pas, c'est moi qui vais le faire. Hein. » Et là, il me dit me fais pas la morale, les Français ont voté Macron, s'ils auraient voté pour Le Pen, on n'en serait pas là.
Aïe. Ouais.
Je me suis dit, là on tient un champion quand même. Je reviens pas sur la faute de grammaire, parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas tous eu la chance d'avoir un bled à Noël, mais que veut dire cette phrase, s'ils auraient voté pour Le Pen, on n'en serait pas là, tu vois. C'est arrivé ce matin, donc c'est encore un peu récent, mais j'ai beau chercher, je comprends pas ce qu'il a voulu dire. J'ai relu le programme de Marine Le Pen en 2017, il y avait rien sur les déjections canines. Elle a pas dit, moi, présidente, je fermerai les frontières et l'anus des chiens, tu vois. Donc, à mon avis, le gars n'est pas content que Macron ait gagné en 2017, et sa façon à lui d'exprimer son mécontentement, c'est de pas ramasser les crottes de son chien. Faut quand même saluer l'idée, parce que moi, j'y aurais pas pensé, tu vois. Autant la petite panneau, attention aux chiens, j'avais pensé, mais pas ça, tu vois. Monsieur, je vais te tutoyer parce qu'il m'a tutoyé. Monsieur, je crois que tu fais fausse route. Tu crois que quand les gens voient les excréments de ton chien sur leur palier, ils se disent « Ah, ça c'est la faute à Macron ?» Non, on n'en serait pas là avec lui, non. Ils voient juste les déjections d'un chien qu'un imbécile de maître n'a pas ramassé. Voilà, je vais y arriver. Tu sais quoi, monsieur? Pense à ton chien. Les excréments, c'est la messagerie des chiens. Et les autres chiens du quartier, ils ont tous de la peine pour leurs copains parce qu'ils savent que son maître est un con. Voilà. Et chez les chiens, être tenu en laisse par un con, c'est ce qu'il y a de pire. Alors si tu aimes ton chien, fais-le pour lui, ramasse ses crottes ou achète un lapin. T'auras même pas à sortir le promener, ça fait des petites crottes très faciles à ramasser. Parfois même, il les mange. C'est vraiment bien les lapins.
Merci Alexis, on s'est bien. France Inter. La bande originale.
And every time it rains, it rains. Nous finirons ensemble, toujours ensemble sur France Inter avec ce film de Guillaume Canet. C'est une façon aussi de questionner la définition de l'amitié. C'est quoi l'amitié pour vous, François Cluzet ? Parce qu'il y a des tentatives de définition dans le film. Il y a des personnages qui nous disent par exemple qu'être ami, c'est être là quand il faut, pas être là tout le temps. Pour vous, c'est quoi ?
Non, moi je garde en tête la définition de mon père de l'amitié, qui me disait « L'amitié, c'est quelqu'un qui t'appelle de Madrid en disant « Viens tout de suite » et toi, dans la seconde, qui monte dans ta voiture. » Donc, c'est l'amitié, c'est ne même pas essayer de comprendre le pourquoi, ouais. Mais faire les choses qui sont demandées. Quoi.
Genre, prêter main forte pour enterrer un cadavre, ça, vous êtes ce genre d'ami, François Cluzet?
Ah, clairement, jusque-là.
Bah ouais, c'est ça. Ne pas demander la raison.
Boire une bière, non,
mais ça, c'est le cas facile. Aller boire une bière, on est tous OK pour aller boire des bières. Mais si, c'est un gros pépin. C'est ça, l'amitié. Vous dites pas poser de questions. Prends ta voiture, viens, montre, rejoins-moi.
On va déjà au secours de l'appel qui est lancé et ensuite on essaye de comprendre le pourquoi, le comment et pourquoi on nous a demandé de revenir aussi vite, quoi. Bon, après, je sais pas où ça s'arrête, mais enfin, en l'occurrence, pour nous, là, dans ce film, on sent on sent l'attachement, même avec le personnage de Gilles, sur lequel mon personnage à moi n'est pas du tout d'accord, puisque finalement on est resté sur une phrase que le personnage de Gilles avait dit au mien, c'est-à-dire tu peux te torcher le cul avec ton fric. Et ça, ça n'a pas passé pour Max. Ouais. On peut pas lui dire ça, quoi. Hein, c'est pas possible. D'autant qu'il a pas arrêté de payer pour tous ses amis.
Ça fait mal parce que c'est vrai. Oui. Parce qu'il parlait tout le temps de son pognon.
Oui, bien sûr.
Pour ça, ça fait mal.
Mais en même temps, du côté de chez Max, c'est lui qui leur a offert des vacances. Hein. Mmh. C'est-à-dire, venez, je paye tout. Donc, la moindre des choses qu'il espérait, c'est là où il se trompe, c'est un peu de reconnaissance. Finalement, il n'en a pas. Et il a plutôt les défauts qu'on exprime de son caractère.
Vous le défendez hyper bien. Vous continuez à le défendre, en fait, ce personnage. Mignon, hein. C'est mignon, hein.
Peut-être il n'est pas trop éloigné de moi. C'est pour ça que je trouve, les accents pour le défendre.
Vous voulez dire que vous êtes hyper chiant en vacances?
Mais moi je suis solitaire, donc si je suis chiant, c'est moi que j'emmerde.
Puis surtout, il a envie de participer au troisième volet, hein, quoi, la suite de la suite. Nous finirons ensemble, François Cluzet et Gilles Lellouche sont nos invités jusqu'à 12h30 dans la bande originale. Random Eddy de Bretto sur France Inter.
De Bretto.
De Bretto.
De Bretto. De Bretto. Je dis quoi?
De Bretto.
De Bretto. Passe de Bretto.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. Oh, 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 oh. J'ai le cœur en dame, je crois en tout ce qui gagne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce gris est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds et à pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs.
Random Eddy de Pretto sur France Inter dans la bande originale.
Et on va justement passer quelques années en série de vos vies, Gilles Lellouche et François Cluzet.
On commence en 1995.
Ouais.
Et pour vous, Gilles Lellouche. Paris Le Flore, Étienne Dao.
Alors ça ne correspond absolument pas à 1995.
Mais non, mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, moi j'ai des
titres que j'ai.
Ouais, je suis absolument fan d'Étienne Dao.
Bah, faites-vous plaisir.
Je n'attends vraiment rien, je viens pour y lire des bouquins. Arthur Miller, puis faut que j'aille traîner sans raison, sans raison, oh, sans raison.
Alors pourquoi Étienne Dao en 95, ça évoque quelque chose? Parce que à cette époque-là, nous, ce qu'on a un peu détecté, c'était la découverte de la haine de Gassot.
Ouais,
donc c'est
ouais,
pas
donc
exactement
c'est
la même bande son.
Lié. Non, mais c'est surtout les mes premières années à Paris, en fait. Donc c'est, moi je viens de la région parisienne et je découvrais Paris et voilà, et comme dans cette chanson que j'adore, j'avais tendance à cette époque-là à beaucoup flâner parce que j'avais beaucoup de temps libre.
Ouais. Au café voilà. De Flore.
Ouais, notamment, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont assez incroyables quand on sort comme ça des cours de théâtre et puis qu'on est largué dans la nature, il y a des voilà, donc notamment c'est en voyant la haine, effectivement, de Mathieu Kassovitz que ça m'a donné envie de réaliser un court-métrage. Moi qui savais même pas ce que c'était qu'une caméra ou une focale, une optique. Ouais. Donc je me suis lancé dans la réalisation, surtout pour jouer, en fait, pour m'aider à jouer. Et j'ai écrit un court-métrage dans lequel j'ai joué avec Léa Drucker. Que j'ai réalisé. Voilà, je suis parti comme ça dans le monde de la réalisation pendant des années pour faire des clips vidéo, ce qui n'était pas, j'étais pas prédestiné à ça, mais voilà.
Et le court-métrage, c'était 2 minutes 36 de bonheur,
absolument,
c'est ça?
Ouais, ouais. C'était quoi, une sorte d'hommage. C'était tout bête, c'était une sorte d'hommage aux comédies musicales. C'est un type qui raccompagne une fille, place des Vosges, sous sa porte cochère, et puis il s'embrasse, et puis Paris devient magnifique, et tout le monde danse, et voilà.
C'est la vision fantasmée tout d'un coup de la ville.
Exactement, certainement la vision que je devais avoir, ouais, à Paris, auquel je n'avais pas accès encore.
C'était quoi votre rêve justement à l'époque? En vous disant, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai où, je me vois où?
C'était d'être François Cluzet, mon rêve.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que quand on s'est rencontrés, je l'ai rencontré un tout petit peu avant La Bande du Trésor, on avait fait un film d'Éric de Montalier, non, c'est ça? Et j'étais très admiratif de tourner avec François. François, c'était... Il y avait un film qui m'avait vraiment, vraiment marqué, c'était L'Enfer de Chabrol. Mmh. Et... où François livre une performance
formidable.
Au-delà de formidable, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'équivalence en France. Le jeu sanguin, la fièvre du jeu de François dans ce film est absolument admirable. Et donc c'était exactement vers là que je voulais aller.
Être François Cluzet, c'est pas mal. Et vous écoutiez François en 95.
Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne. Ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui le veulent.
François, pourquoi cette musique?
Non, d'abord, je trouve que c'est une très belle chanson, vraiment. Et moi, j'aime beaucoup la variété française, j'aime beaucoup le vocal.
J'adore vous voir comme ça parce que vous mettez un rire à sourire, c'est génial. Ouais.
Et vraiment, il me manque ce Michel Berger. Il me manque, c'est comme Balavoine, il me manque, comme Coluche, il nous manque. Et je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps et vraiment, j'arrivais à l'écouter en boucle. Il y a quelque chose de terriblement sentimental qui livre et qui se partage avec cette chanson. Le texte est magnifique. Donc c'est un coup de cœur. Et alors moi je fais comme quand j'étais môme, c'est-à-dire je remets le 45 tours sur le Tepaz toute la journée.
Sans fin.
Toute la journée.
Jusqu'à usure.
Jusqu'à ce que mon père me dise « Je vais confisquer cet appareil
!» Et en 95, alors que Gilles Lelouch voulait être François Cluzet, vous François, vous étiez à l'affiche d'un film de Pierre Salvadori, Les Apprentis, avec Guillaume Depardieu. Oui. Une alliance tout d'un coup assez folle à l'écran.
Oui, je veux juste répondre à ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, parce que ça me touche. Disons que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien être Gilles Lelouch.
C'est vrai?
Ouais. Oui, parce que j'ai toujours rêvé de mettre en scène. J'ai commencé par être figurant. Je me suis rendu compte en étant figurant. J'avais des jumelles quand j'étais figurant. Et je voyais la caméra et je me disais, tout se passe là-bas. Puis après, j'ai commencé à jouer des petits rôles. Et en jouant des petits rôles, je me suis rendu compte que celui qui prenait le plus de plaisir, c'était le metteur en scène. Donc, j'étais convaincu que c'était l'Eldorado, la mise en scène. Et j'ai commencé à écrire des scénarios. Ça n'a jamais plu. Donc, c'était un drôle d'effet, quoi. Même encore récemment, là, j'ai écrit quelque chose et je ne comprends pas.
En tout cas, Gilles Lelouch qui voulait être François Cluzet, François Cluzet qui aimerait bien être Gilles Lelouch, ça mérite qu'on écoute un peu. Juste pour vous. C'est beau, hein.
Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ses amis et ses filles qui le veulent, que quelques mots d'amour.
Mettre en scène, c'est un peu... C'est un peu à la portée de tout le monde, parce qu'il suffit de dire action. Seulement, les grands metteurs en scène, eux, se préoccupent de beaucoup d'autres choses, et notamment des acteurs. C'est très rare de voir, dans Le Grand Bain, par exemple, des acteurs aussi vrais, aussi sensibles, et jouant tous ensemble. C'est absolument extraordinaire, parce que c'est des personnalités tellement différentes, entre Philippe Catherine, Guillaume Canet. Ben, franchement, on se demande comment ils peuvent se parler. Et là, ce groupe fonctionne. Ça, c'est la mise en scène, c'est la direction d'acteurs. Donc, moi, je suis un acteur, je suis passionné par la direction d'acteurs. Je me dis que réussir ce qu'il a réussi, c'est exactement ce que j'aurais aimé faire.
Et ben alors, faut continuer.
Ouais. Je vais bientôt remettre en scène avec un déambulateur. Ah. Je pense que ça sera pratique.
Mais non, je peux pas croire une seule seconde que vous ne parveniez pas à mener à bien ce désir-là.
Non, vous savez, ce qui est drôle, c'est que tous les producteurs, ils étaient persuadés que j'allais écrire un film triste.
C'est vrai. On vous associe à ça.
Ouais. Parce que c'est les personnages que j'ai joués, de mecs un peu désespérés et tout ça. Et quand ils lisent ça, ils sont complètement surpris. Ah, une comédie? Ah, mais non, ça tendait à un truc rempli de larmes et tout ça. Alors que moi, mon rêve, ça a toujours été de faire rire avec ce qui m'a fait souffrir.
Bah, au théâtre, Gabor Rassoff, la pièce extraordinaire. Vous
Jacques et Mylène.
Drôlerie incroyable.
Et justement, là, dans Salvadori, c'est faire ça, de la comédie, mais en même temps, avec une pointe de mélancolie. On vous retrouvait à l'affiche de ce film-là, pour revenir à l'année 95, avec Guillaume Depardieu. C'était aussi cet univers, un petit peu.
Oui, là, c'est le souvenir de Guillaume qui est, c'était très impressionnant. Tu as tourné avec lui?
Non,
c'était très impressionnant parce que, il était vraiment très singulier. Il aimait pas les plans larges. Il les jouait pas, les plans larges. Il jouait que les plans rapprochés, tu vois. Donc, un jour, j'ai dit, mais t'es un putain de flemmard, quoi. Tu peux jouer aussi. Il était terriblement attachant parce qu'il est terriblement fragile. Moi, je fais beaucoup de moto, alors il voulait m'impressionner avec la moto. Tu montes derrière, tu vas voir, monte derrière. Ouais, je monte derrière. Et après, toi, tu monteras derrière. Mais j'ai un très beau souvenir de lui et de Salvadori. Le film est formidable, hein. Le film existe terriblement. Mais beaucoup grâce à Guillaume. Et puis le fait que ce couple soit tellement différent l'un l'autre, ça fonctionne terriblement. Parce que finalement, le personnage de Guillaume dans Les Apprentis, tout va bien pour lui. C'est moi qui m'angoisse. Et c'était drôle parce que comme on joue des chômeurs et des désœuvrés, je dis à Pierre, moi je suis sûr que le bon costume pour moi, c'est costume-cravate. Et puis non, mais ils sont désœuvrés. Je dis justement, ils sont désœuvrés, mais il n'a qu'une envie, c'est de bosser. Donc il est en costume-cravate parce qu'il est prêt. Et on a fait ça comme ça, et je trouve que ça donne une certaine force
au personnage, oui, absolument.
C'est génial, c'est...
On passe aux années 2006-2007, à l'époque, Gilles Lellouche, vous écoutiez. Notorious B.I.G.
En 2007.
Ouais, jusqu'à aujourd'hui.
Je suis absolument fan de rap, notamment de Notorious B.I.G.
Dans Le Grand Bain, du reste.
Et vous êtes nommé au César du meilleur espoir pour votre rôle dans Ma vie en l'air de Rémy Besançon. Là, à ce moment-là, on se dit ça y est, j'ai commencé à toucher un truc du doigt. Vous aviez au rêve parisien du jeune homme.
Ouais, bien sûr. Non, bien sûr.
François Cluzet.
Non, c'est extraordinaire. Et puis en même temps, c'est un peu vertigineux parce que c'est un métier qui est assez étrange. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps avec énormément d'angoisse à essayer de le faire. Et puis une fois qu'on le fait, on essaye d'y rester. Et puis une fois qu'on est dans une certaine compétition, puis on se rend compte que la compétition amène encore d'autres compétitions. Ouais. Qu'en fait, c'est une espèce de boîte de Pandore qui n'arrête jamais. Ouais. Quand on fait ce genre de cinéma, bah, il faut aller vite faire un autre genre de cinéma et que le cinéma populaire est en contradiction avec le cinéma d'auteur, avec le cinéma. Bref, on s'aperçoit de toute la complexité, on va dire, pyramidale du métier d'acteur. Et c'est à la fois une immense joie et en même temps une certaine douleur de voir que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on pouvait l'imaginer. Ouais.
Justement, pas trop déçu par rapport au Grand Bain et au César, en récompense.
Dire que je suis pas déçu, ce serait mentir, mais c'est la règle de la compétition, voilà. Pour être honnête, je m'y attendais un petit peu, voilà.
C'est vrai, vous étiez préparé à ça.
Comédie,
parce que.
Oui, parce que en plus c'était une année où il y avait des choses formidables. Jusqu'à la garde est un film exceptionnel. Ouais. Je comprends complètement qu'il ait raflé beaucoup de prix, c'est normal.
Avec Léa Drucker, notamment.
Ouais, justement, avec Léa Drucker. Ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est qu'on se soit retrouvés tous les deux, elle nommée meilleure actrice et moi meilleur acteur la même année, alors que On a commencé vraiment tous les deux, donc c'était, on s'est appelé le jour même pour dire tu te rends compte, si on avait imaginé ça.
Et puis ce qui est drôle,
ça, rien que cette idée-là est joyeuse,
ouais.
Voilà.
Ouais, et un an après, ce qui est drôle, c'est que c'est François Cluzet qu'on retrouve au César et qui décroche le César du meilleur acteur pour votre rôle dans Ne le dis à personne de Guillaume Canet. Donc finalement, vos histoires à tous les trois, elles ne sont jamais très très éloignées. Le meilleur espoir en nomination pour vous, Gilles, et en effet, François, plus installé dans le métier à cette époque-là. Comment est-ce qu'on reçoit quand même une récompense de ce type-là quand on est déjà... quand les jeunes comédiens rêvent d'être vous?
Non, c'était formidable parce que c'est une espèce de passage un peu obligatoire à cette époque, en tout cas un peu moins maintenant, mais d'avoir le César du meilleur acteur, c'est... moi j'avais fait 60 films d'auteur qui n'avaient jamais marché. Donc évidemment, j'étais anti-bankable. Et on arrive à ce film de Ne le dis à personne qui est un succès. Donc ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et le fait de recevoir cette distinction, c'est moi ce qui me touche, c'est que ça soit nos pairs, quoi, que ce soit les gens du métier, ouais, qui décident que cette année-là, dans ce film-là, il y a un acteur qu'ils ont remarqué, quoi. Bon, j'étais plutôt très content. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de justice là-dedans. Tout à l'heure, Gilles évoquait ce truc-là, mais il y a 20 ans à passer dans ce métier qui sont difficiles. Hein. Il y a 20 ans qui sont délicates, quoi.
C'est encourageant pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui veulent faire ce comédien.
Ce que Jouvet disait, tu choisiras quand tu auras le choix. Moi, je peux vous assurer que dans les premières années, vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Et généralement, vous acceptez ce que ceux d'en haut ont refusé. Ouais. Et si Auteuil ou Depardieu avaient refusé, c'est bien parce que le script avait un problème. Ouais. Mais donc, c'est vous qui vous le collez, quoi. Ouais. Et ces problèmes-là, vous les avez aussi. Ceci étant, je me plains pas, j'ai eu une chance formidable, j'ai travaillé tout de suite.
Aujourd'hui, c'est les plus jeunes qui récupèrent, ou les moins expérimentés qui récupèrent les scénarios dont vous ne voulez pas.
Bien sûr. Et c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Ben moi, je suis assez optimiste sur ce métier d'acteur, bien qu'il y a maintenant il y a de plus en plus de jeunes gens qui veulent être acteurs ou actrices. Mais je suis assez optimiste parce que c'est un métier qui a tout changé chez moi, notamment sur l'échange et la générosité. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier de don de soi. Mm-hmm. On peut pas passer à côté. Si dans un film vous donnez rien, vous n'existez pas, quoi.
Et là, dans Nous finirons ensemble, on voit que vous donnez tout, c'est que c'est collégial, c'est un film choral, un film de bande, et justement, on voulait parler aujourd'hui de l'amitié. Dans cette émission, on accueille Daniel Brun. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, professeur émérite de l'Université Paris Diderot. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'amitié, notamment La passion dans l'amitié, récemment L'empreinte du corps familial, Mémoire des cicatrices chez Odile Jacob. Il faut de la passion dans l'amitié.
L'amitié est une passion. Elle n'est pas nécessairement passionnelle, mais l'amitié est une passion. Lacan définit trois passions. Mm-hmm. L'amour, la haine et l'ignorance. Je me suis dit que l'amitié s'ajoutait bien à ces trois valeurs, l'amour, la haine et l'ignorance.
Alors, appartenir à une bande de potes, on a un peu l'impression aujourd'hui que c'est un peu un graal socialement, que c'est important d'avoir en effet une famille, mais une vie réussie, c'est d'avoir cette bande de copains, savoir avec qui on part en vacances, faire des bouffes régulièrement. Est-ce que c'est devenu un signe de réussite sociale ?
Un signe de réussite sociale, je ne sais pas, mais un signe d'accomplissement personnel, sûrement.
Oui.
Ce qui m'a frappé dans le film, Les petits mouchoirs et sa suite, c'est le rôle de la maison. Mmh. Et là, ils sont ensemble et en même temps, ils vivent ensemble. Donc, ils se disputent, ils rient ensemble, ils sont en danger ensemble, ils se sauvent les uns les autres. C'est pas une harmonie totale. Je crois que c'est ça qui est tout à fait intéressant dans ce film, c'est que c'est pas une harmonie et en même temps, c'est comme une famille avec un sentiment d'appartenance. Et puis, 9 ans après, chacun effectivement a fait sa vie, a vieilli et il y a beaucoup de rire. Mmh. Mais il y a une chose qui m'a frappée dans ce film. Évidemment, après 9 ans, les enfants ont grandi, sont devenus adolescents.
Des enfants apparaissent.
Il y a des enfants à paraître. Et alors, cette bande d'amis est tellement soucieuse de rester ensemble et de se complémenter ensemble, que finalement, les enfants, on s'en occupe, mais sur un plan...
Oui, les enfants sont secondaires parce que l'amitié prend toute la place, en fait.
Je suis pas sûre qu'ils soient secondaires. Ce qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence de génération parce que c'est plus que quinquas, parce que vous êtes plus que quinquas maintenant.
Madame.
Non.
Daniel, s'il vous plaît. Bon, ce sont des comédiens, ils sont susceptibles.
Les 60 ans, ça veut dire quand même, c'est une génération au-dessus des adolescents.
Oui, mais c'est aussi une génération au-dessus. Mon personnage joue le rôle de grand frère. C'est aussi pour ça qu'il est le guide et qu'il donne exactement l'éducation que tout le monde devrait avoir.
Ah oui.
Moi, j'ai 15 ans de plus que Gilles, que Guillaume, que Benoît, que Laurent, facilement. Donc, il est dans cette position de dans les petits mouchoirs de « c'est moi qui gagne l'argent, donc je vous invite, et si je vous invite, respectez-moi ». C'est-à-dire, ça, on le fait comme ça, avec cette maniaquerie. Mais il a toujours cette position d'être celui qui a le plus vécu et qui a le plus d'expérience.
Voilà,
Parce qu'il y a ses 15 ans, justement.
Merci beaucoup, en tout cas, Daniel Brun. Je rappelle que vous avez publié récemment « La passion dans l'amitié » et « L'empreinte du corps familial, mémoire des cicatrices » chez Odile Jacob.
François Cluzet, Gilles Lelouch sont avec nous pour nous finirons ensemble en salle le 1er mai. Tanguy Pastureau, comme c'est gentil de nous avoir rejoints.
Ah oui.
Tanguy, la fonte des glaces, c'est terrible.
Oui, parce que ça révèle tout ce qui est en dessous, enfermé depuis des milliers d'années. On retrouve des animaux, des virus oubliés, du CO2 Arlette Laguiller, qu'on avait perdu depuis si longtemps. Mais aussi, Daniel, des étrons. En Alaska viennent d'être mis à jour 66 tonnes de crottes d'alpinistes laissées ici depuis 100 ans. L'alpiniste est sale.
Vous êtes passé le mot.
On a hâte, la suite juste après les infos. Retour de la bande originale avec Albert Albou, Frédéric Sigrist, Alexis Le Rossignol, Tanguy, on vous retrouve dans quelques instants, bien sûr, Leïla Kadour-Boudadine.
Salut à tous nos invités, Gilles Lelouch et François Cluzet. Nous finirons ensemble la suite des petits mouchoirs de retour sur grand écran, 9 ans après la sortie de ce premier film qui avait été un véritable succès, qui nous avait permis de découvrir une bande de potes à laquelle on s'est attaché. François Cluzet est de retour, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte de la Comédie Française, Benoît Magimel, Pascal Arbillot. Il y a de nouveaux personnages aussi, notamment José Garcia, Valérie Bonneton est de retour, elle aussi, parce que forcément le couple n'a pas tenu le choc et elle envisage aussi Valérie Bonneton de s'amuser un peu dans la vie aussi. C'est un personnage qui est...
Oui, elle a dû être bridée par Max.
Ouais.
Et donc, évidemment, on sort de cette cage, de cet enfermement et avoir envie de vivre. Je trouve formidable la façon dont Guillaume a orchestré cette séparation. Quoi. Et les scènes qu'a Valérie avec José sont vraiment très drôles. Donc je trouve que c'est... Il est incroyable ce Guillaume, hein. Sur l'écriture il est absolument dément.
Il écrit vite ce scénario, ça fait un moment qu'il bosse dessus ?
Non mais il a écrit relativement vite, qu'il a écrit ce scénario en moins d'un an, quoi, en six, huit mois, c'était fait, donc avec des impératifs de personnages, d'évolution, etc., ce qui est très très compliqué. Ce qui est encore plus étonnant dans l'écriture de Guillaume, c'est que il y a des finesses, il y a des ramifications qu'on ne voit pas tout de suite à la lecture. C'est-à-dire que là, j'ai compris la profondeur et en fait toute la réflexion qu'il avait autour de ses personnages et du temps qui passe en voyant vraiment le film. C'est-à-dire que il y avait des choses qui étaient invisibles à la lecture. C'est assez étonnant. Il est vraiment étonnant. Ouais. Il a une capacité de travail qui est admirable.
Ouais, et votre personnage, à vous, Gilles Lelouch, a bien mûri.
Oui.
Particulièrement, il est devenu très responsable, j'ai la sensation. On vous a quitté un peu.
C'était un ado un peu, voilà, un peu
coureur,
machin, et puis, et qui a pris, à mon avis, deux, trois beignes, et qui s'est un tout petit peu calmé. Et puis, qui est quand même fou amoureux du personnage de Marie. Donc, Marie, qui, elle, est de plus en plus, en fait, noyée dans une vie qui lui correspond pas. Aussi de douleur, le personnage de Marie est aussi un peu dépressif.
Marion Cotillard,
voilà.
Qui est de retour chez ses parents, qui bosse dans un bar. Enfin,
qui bosse dans un bar à Rennes, qui s'occupe absolument pas de son fils, qui est à moitié alcoolique, pour pas dire complètement alcoolo. Et donc voilà, il en est fou, et je pense qu'en fait ça régule un peu sa folie, son rapport à la vie, et qu'il a envie d'être une sorte de pilier, de phare pour elle. Donc évidemment, mon personnage est beaucoup plus sage que dans le premier.
Ouais, c'est pas troublant.
Au début, je le regrettais. Je me disais, oh, il est moins marrant. Et puis finalement, je le trouve assez beau parce qu'il représente vraiment un personnage sur lequel on peut compter, que ce soit Max ou Marie ou tous les autres. C'est un copain solide.
Ouais, c'est un des piliers du groupe.
Le personnage a beaucoup évolué. Le fait aussi qu'il ait réussi en tant qu'acteur et qu'il ait des moyens. On parlait d'amitié tout à l'heure. Mais vous voyez ce que mon personnage lui demande. Et il lui demande de mentir pour le sauver lui, quoi. Juste un mot sur Marion, parce que Marion Cotillard, elle a un rôle qui est vraiment très délicat. Mm-hmm. Très, très délicat. Parce que complètement antipathique au début. Hein, c'est-à-dire, son fils vient présenter la dent qu'il a perdue. Elle n'en a rien à faire. elle n'arrive pas à élever cet enfant. Et ça, c'est des rôles qui sont terriblement antipathiques. Et il faut les grands acteurs pour les faire passer, parce qu'il faut faire passer l'émotion en même temps. Bon, les gens sont pas dingues, ils confondent pas les acteurs et les personnages. Hein. On croit tout le temps, mais non, pas du tout. Ils savent très très bien que ce sont des acteurs. Mais moi, j'étais complètement épaté par la façon dont elle a pris tellement d'une telle vérité d'être antipathique. Oui. Et ça, vraiment, ça m'a rappelé aussi les premiers théâtres que j'ai faits, où les metteurs en scène, metteur en scène en l'occurrence, disait, si les acteurs n'acceptent pas de jouer les monstres, alors qui va s'en charger? Parce qu'effectivement, dans la vie, tout le monde a des gueules de héros, ou en tout cas, il n'y a pas de meurtrier.
Pas autour de cette table.
C'est ça. Non, mais en tout cas, elle est écorchée vive, elle est dans une forme de violence contre elle, contre les autres. On sent qu'elle est, elle bouillonne, que si quelque chose ne va pas, et en effet, elle ne cherche pas à présenter un personnage positif.
Et ça se retourne avec la relation avec le personnage de Gilles.
Mais on ne dira pas grand-chose de ça.
Elle s'ouvre un peu face à lui qui est sérieusement mort.
Mais les rapports entre les adultes et les enfants sont touchants, comme le rôle de Marion Cotillard, mais aussi Benoît Magimel avec son fils qui a du mal à se positionner.
Bien sûr.
Ouais. C'est très touchant de sa part.
Ouais, c'est très très beau. Ouais. Mais on peut pas le dévoiler.
Mais non, on peut pas dire non plus.
Ce que je vais dévoiler complètement, c'est la présence du doux Tanguy Pastureau. Tanguy, le dérèglement climatique. Ça vous fait peur?
Oui, ça m'effraie. Je préférerais me retrouver en jupe, les jambes épilées, dans une pièce fermée avec Tariq Ramadan, que d'avoir à subir les effets du changement climatique. Parce que je pense à mon fils, dans quel monde va-t-il vivre? Moi, ma jeunesse, c'était l'authenticité. J'étais en Bretagne, on jetait nos emballages de kiri à la mer, tandis que mon oncle, Fanche, montait sur sa Renault 5 un gros pare-buff pour écraser les mouettes. Avec ses odeurs typiques de l'époque, le super plombé, les insecticides, les gitanes brunes, le mazout de la Mococadis sur les plages du Finistère. Que de bons souvenirs, la vie, quoi, la nature. Mais aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Ils polluent. Donc je sais que certains s'en fichent, normal, s'ils n'ont pas d'enfants ou qu'ils n'aiment pas les enfants. On peut les comprendre. Les hamsters, par exemple, leur sont supérieurs. Toute personne qui a déjà mis son gamin dans une roue en lui disant « vas-y, tourne », vous dira la déception qu'il a ressentie lorsque le petit, après à peine 3 tours, s'est ouvert l'arcade sourcilière. Moi, le changement climatique, ça me fait surtout peur à cause de la fonte des glaces. Hein, déjà, avec la montée des océans, Amsterdam risque de se retrouver sous l'eau. Les 3/4 des stocks de drogue vont être trempés. Et Amsterdam, on y va pour ça. Le reste, ce sont des Hollandais rougeaux en train de suer à vélo. Moi, j'ai commencé la drogue là-bas pour oublier l'existence de ces gens. Mais en plus, sous la glace, alors on est en train de retrouver toutes les cochonneries laissées là par nos ancêtres. Des gens en culottes de peau vivant du temps des débuts de Jean-Pierre Elkabbach. Exemple, on a découvert un lionceau des cavernes resté dans la glace en Russie pendant 46 000 ans. Il a tout raté, la révolution bolchevique, les 19 réélections de Poutine et le groupe de pop russe Tatou, hein, dont je me souviens moins des chansons que du fait qu'il était composé de 2 jeunes femmes qui se roulaient des pelles. Ouais. Ensuite, je suis allé voir un psy pour en parler, il en est arrivé à la conclusion que j'étais un beauf. Hein. J'étais soulagé, je pensais que j'étais différent de tout le monde. Le lionceau, pouf, est donc sorti de la glace et il est en parfait état, comme le serait un poster double page de Philippe Poutou qu'on retrouverait chez Bernard Arnault. Les scientifiques ont même déterminé que l'animal n'avait jamais tété, aucune trace de lait. Situation familiale complexe, la mère était partie en disant « Ah, je me taille en Afrique, il fait chaud, nous les lions n'avons rien à faire en Russie ». Bref, le petit est mort et la fonte du permafrost donc a permis de récupérer son corps. À un côté, ils ont retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, mais les Russes ne sachant pas qui c'était, l'ont laissé dans la glace. Alors, le permafrost, me diras-tu, auditeur de France Inter, qui est un collab sur la carrière de Benoît Hamon, mais un peu juste en science. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit du sol qui reste gelé en permanence dans des lieux très froids. Le pôle, la Russie, le regard de Martine Aubry. Et en dessous, il y a des lionceaux, mais aussi du CO2 qui va se libérer en masse, donc on est mal, et des virus oubliés. C'est-à-dire que si ça fond, on va choper la rhinopharyngite de l'homme de Néandertal. Or, lui était solide, mais nous, on se met un coup de lingette sur les mains dès qu'on touche une poignée de porte. Donc, on est cuit. Seuls les plus sales d'entre nous survivront. Moi, j'ai passé 1 heure ce matin au WC de la radio pour voir qui ne passait pas par le lavabo. Qui sont tous ces gens qui vont m'enterrer.
Mais alors, à part des animaux anciens, des virus, Tanguy, que trouve-t-on sous la glace?
Eh bien, Leïla, c'est affreux. Nous avions une émission si élégante. Daniel Morin avait coiffé sa barbe. Vous rayonnez. Nous avons 2 grands acteurs dégageant ce petit truc qui fait que jamais on ne leur proposera de jouer dans les mystères de l'amour avec Hélène et Nicolas. Et je vais tout casser en vous parlant d'excréments. Oui, il y a 15 jours, la presse révélait qu'en Alaska, sur le mont Denali, plus haut sommet du coin, l'équivalent d'Adriana Carambeu en Ile-de-France, le dégel avait mis à jour 60 tonnes d'excréments laissés là par 9 générations d'alpinistes. Wow. L'alpiniste est un porc. Hein, il faut le savoir, plutôt que de déféquer dans son sac à dos et tout jeter une fois revenu au village, ce qui le protégerait des attaques d'ours, hein, incommodé par l'odeur, il fait ses besoins dans la neige. Ensuite, il reneige par-dessus, le principe est le même que pour les lasagnes. Hein, et on ne voit plus rien, sauf que la glace, le problème, c'est qu'elle conserve tout. Michael Jackson, qui tenait à rester jeune, dormait dans son congélo. Hein, quand des enfants l'ouvraient, il se mettait à crier « Je suis un micojet !» Mais bref, les autorités de l'Alaska se retrouvent quand même avec 66 tonnes de crottes gelées en train de fondre qui vont couler dans les rivières. Je peux vous dire que le saumon fumé à la prochaine Saint-Sylvestre, je regarderai la provenance et j'en achèterai venant d'Alaska uniquement si je passe le réveillon avec des gens que je déteste. Hein, je dirais « Non, moi je peux pas en manger, je suis vegan !» Rendez-vous compte, dans le village le plus au nord de l'Alaska, il y a 10 jours, il faisait 0 degré alors qu'à cette période, il devrait faire moins 20. Tout fond. Les gens retrouvent les clés de la 205 Bonne Jovie qu'ils avaient perdue en 85. Depuis les jardins des maisons, on entendait « Oh, il était là, papy !» Des « Ah, chérie, sous la glace, tu ne devineras jamais, il y avait le modem de François Bayrou !» Alors, en attendant, le mont Denali, recouvert d'étrons, allant de 1924 à 2019, est en train de fondre. Et c'est terrible, hein, les élans effarés quittent la montagne pour tenter de louer un petit F2 en ville. Parce que l'homme gâche tout. Quand il ne détruit pas la planète, il lui défèque dessus. Et je suis certain qu'en 69, Neil Armstrong a fait ses besoins sur la Lune. Alors un an avant, à Paris, on disait « Sous les pavés, il y a la plage ». Ben maintenant, on sait que sous la glace, on trouve de tout, sauf du sable.
Nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet. J'ai parlé du casting assez incroyable. Ça doit être difficile de vous réunir à une même période de l'année. Quand est-ce que vous avez tourné ce film ?
L'année dernière, mois de...
Mars-avril-mai.
Et après, vous continuez un petit peu ensemble pour faire des vacances ou vous... Non, ça y est, tout le monde repart chacun de son côté.
Non, peut-être pas exagéré non plus.
On imagine tout d'un coup que vous pouvez facilement vivre tous ensemble.
Mais vous sortez épuisé d'un tournage de Guillaume Canet. Vraiment épuisé.
Parce que vraiment, c'est un bourreau de travail, c'est
oui,
ça.
Oui, et puis le rythme est énorme. Et puis, on le disait, 8 acteurs principaux, il faut filmer ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils écoutent, leur réaction à chacun. Donc, c'est un boulot de chien, quoi. Donc on est essoré, enfin, je sais pas comment t'as vécu là.
Ouais, non, mais en fait, c'est claqué, moi. C'est une grande concentration d'essayer de paraître complètement décontracté, en fait. Non, mais c'est vrai, de créer une humeur comme ça, c'est pas simple du tout, en fait. C'est vraiment pas simple.
Et autour de vous, je parlais des autres comédiens aussi, notamment Joël Dupuche, qu'on retrouve aussi, qui est une sorte de figure tutélaire. Aussi de Mérabé. Là aussi, il y a des scènes de comédie exceptionnelles en ouverture du film, mais on dévoile pas grand chose. Et Mickaël va un cours notamment, qui est un chorégraphe, un professeur de danse, qui aussi nous permet de voir l'évolution du personnage. On peut le dévoiler dans les petits mouchoirs. Le personnage de Benoît Magimel se demandait si sa vie c'était pas plutôt avec les garçons. Et là, 9 ans après, on le voit revenir avec son amour. Donc ça aussi, ça prend en compte les évolutions du quotidien dans notre société. C'est aussi ce qui est beau à voir dans le film.
C'est juste.
Ouais. Mais c'est important de voir que c'est pas simplement une petite histoire de Paris un peu bourgeois qui débarque sur le bord de la mer, quoi. C'est-à-dire, ils ont tous les mêmes problématiques que tout un chacun.
Non, je pense qu'on n'aurait pas été loin avec un petit groupe de Parisiens qui se réunissent.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses, Jim ?
Je suis totalement d'accord avec vous.
Et même si les Parisiens qui débarquent au bord de la mer, il y a une scène savoureuse où ils se font traiter de bobos et là... Réaction de Marion Cotillard à découvrir le 1er mai en salle. Nous finirons ensemble. François Cluzet et Gilles Lelouch sont avec nous jusqu'à 12h30. Morning in America, Duran Jones and the Education. Et après, on retrouvera Frédéric Sigris pour son dépôt de bilan. It's still in San Diego. You can hear a baby cry. As the trains in New York City roll thunder down the line, the teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. Maricopa, say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn.
as what the doctor ordered. Come screaming through the rain and in towns across the country.
Morning in America, Duran Jones and the Indications dans la bande originale.
Qui fait penser un petit peu aux musiques qu'on peut entendre dans le film, cette musique noire américaine, un peu des années, je sais pas, 50-60, c'est un peu le l'humeur aussi de ce film. On a notamment celle-ci que j'aime beaucoup.
Ouais, Guillaume est très fort pour tout ce qui est BO, hein. Que ce soit dans Les Petits Mouchoirs, le premier, enfin dans tous ses films en fait, hein, il a vraiment un goût assez sûr en musique. Ouais.
C'est lui qui choisit toutes ses musiques.
C'est lui qui choisit toutes ses musiques, ouais.
Il écrit sur les musiques, il raconte qu'il écoute une musique et qu'il a la scène qui fonctionne avec la musique. Ouais. Et il nous passe la musique sur le tournage.
Ouais, c'est vrai.
Il est très très attaché à
ça. Et là tout de suite, moi j'associe une scène, c'est vous sur la plage, marchant. Vous venez de quitter José Garcia, un moment un peu crucial aussi du film, et vous repartez. Et là aussi, ça pose en effet une ambiance. Et puis Guillaume Canet a réussi aussi à vous faire danser, François Cluzet.
Oui, ça c'était pas gagné.
Le saut en parachute, plus la danse, un peu décalé.
Non, la chance que j'ai eue, c'est qu'il danse, mais il est ivre. Donc ça me laisse une petite porte quand même, parce que l'ivresse, je connais, la danse un peu moins. Mais...
Quand même, il y a une grosse maîtrise à la fin.
Ouais, vous le faites très maîtrise. Très bien. L'ivresse, il y en a un autre qui s'y connaît en la matière, connaît, c'est Frédéric Sigrist.
Bonjour les amis, alors est-ce que vous savez qui est président du Guatemala?
Mal.
Bon, je sais que vous en foutez, mais on pouvait pas tous parler de déjection. C'est Jimmy Morales, un ancien comique. En Italie, qui a fondé le mouvement 5 étoiles qui co-dirige aujourd'hui le pays avec Matteo Salvini?
Beppe Grillo.
Un comique. En Ukraine, qui s'est présenté à la présidentielle avec le succès que l'on sait?
Un comique,
Zelensky. Et ben là, en entendant tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous autour de cette table?
Bah oui, c'est vrai.
Je suis en train de gâcher mon potentiel. Je serai un très très bon président. président. Non mais ça, c'est assez simple. Moi aussi, je peux dire des conneries du genre... Chers compatriotes, à l'horizon 2025, il y aura zéro SDF dans la rue. Non mais ça, c'est facile. Il suffit de leur faire des contrats aidés de gardiens de trottinettes payés 2,50€ par jour, et voilà. Alors, ils se font peut-être plus en faisant la manche, mais au moins, ils auront la sécurité de l'emploi. Les mecs qui jouent de l'accordéon dans le métro, ce qui gêne les usagers, finalement, c'est surtout qu'ils n'ont pas choisi la musique. Si tu les transformes en iPod biologique, tu vois, tu les valides avec un pass Navigo, c'est très ludique. J'ai plein d'idées. L'écologie, c'est important, l'écologie. Les baleines qu'on retrouve avec des tonnes de plastique dans le bide. Avant de toujours dire, oui, c'est la faute des hommes, c'est la faute de la pollution. Est-ce qu'on est sûr qu'elle n'était pas dépressive, cette baleine? Hein? Est-ce qu'on est sûr que c'était pas son choix à elle? Parce que j'ai entendu les chants des baleines, elles sont pas joyeuses, hein. T'écoutes et... T'es Christine Angot à 2 grammes, elle fait le même bruit, hein. Je pense qu'il faut sortir de cet anthropocentrisme qui voudrait qu'on soit responsable de tout. Moi, sur le RERC, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un mec qui jette sur les rails. Bon, bah, il viendrait à l'idée de personne d'interdire les trains. Bon, les migrants, t'as des gens dans le pays, ils sont dérangés quand ils les voient arriver. Eh bien, ils ont raison, on les échange. C'est les plus gênés qui s'en vont. Une sorte d'Erasmus pour adultes. Je pense qu'après 3 ans à se prendre des bombes sur la gueule et à bouffer des racines, ça sera les premiers à embarquer sur la croisière Aquarius. Je vous le dis, j'ai plein d'idées. Le chômage des jeunes. On se plaint que les jeunes entrent sur le marché du travail de plus en plus tard et on demande aux seniors de travailler le plus longtemps possible. Eh ben, il suffit d'inverser. Tu commences ta vie par la retraite. C'est quand même plus sympa de faire des croisières, d'aller voir des expos quand t'es jeune. Aller à Ibiza quand t'as 75 ans, excusez-moi, mais quel gâchis de sperme. En fait, je m'en rends compte autour de cette table, je fais pas des sketchs, je teste une ébauche de programme politique. En plus, on a un proto-gouvernement autour de la table, à la bande originale. Daniel Morin.
Oui.
au ministère des droits des femmes.
Complètement.
C'est l'homme de la situation. Ouais. C'est le seul moyen pour qu'il se tienne, d'ailleurs. Leïla à la santé, juste pour avoir le plaisir de l'entendre dire qu'il faut boire avec modération.
Oui, c'est vrai.
Nagui aux finances, parce qu'ok, il fait des questions très longues, mais il sait quand même gérer un compte. Hein. Ouais. Alexis le Rossignol à l'agriculture, parce qu'il maîtrise les endives au jambon et la Macédoine de légumes. Et voilà. Et pour celles et ceux qui pourraient penser que l'on n'est pas à la hauteur de la tâche, je n'ai que deux mots à dire. Marlène Schiappa. Voilà. Okay. Et finalement, Yacine Bellatar, Dieudonné, je les comprends, tu fais rire le point virgule, tout d'un coup tu te dis, l'Élysée ça se tente. Bon, souvent tu vises l'Élysée et tu termines en garde à vue, mais ça marche aussi pour ceux qui sont déjà à l'Élysée. Hein. Aujourd'hui, l'ENA et la garde à vue, c'est les deux passages obligés d'un politique. Il y a plein de points communs entre les politiciens et les humoristes. Jean Lassalle, moi il me fait beaucoup plus rire que les Baudins. En 2009, au salon de l'agriculture, on lui demande quel est son cochon préféré. Il est là, t'es tout joie, il fait
mon cochon préféré, une petite cochonne, mon épouse.
Véridique, c'est très drôle. C'est quoi la différence entre Gad Elmaleh qui fait « Brian is in the kitchen » et Raffarin qui dit « Win the yes, need the no, to win against the no ». C'est le même taf. Et finalement, bah, comme disait Coluche, hein, on arrêtera de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de nous faire rire.
Bravo. Merci Frédéric. La bande originale. Si vous voulez voir François Cluzet crier « Je veux pas mourir », faire un saut en parachute, danser à un poil éméché, ranger de façon maniaque et frénétique toute la maison et gueuler en fait sur tous les copains, une façon de leur dire qu'il les aime, parce que c'est comme ça qu'il s'exprime, votre personnage.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, une espèce de grand frère, c'est-à-dire vous êtes trop jeune pour savoir comment vivre. Moi, je vais vous le dire. Alors, il n'ose pas prendre les grands mots, les grands moyens, mais finalement, c'est ce qu'il a dans le regard. C'est-à-dire vraiment, vous êtes totalement immature. Il pense ça de tous ses amis.
De toute la bande. Eh bien, retrouvez toute cette bande dès mercredi au cinéma. Nous finirons ensemble le nouveau film de Guillaume Canet avec une bande son. Je peux pas résister aussi cette musique qui vient terminer le film. Une ode à l'amitié, en fait, une invitation à s'appeler peut-être après ce film, à se dire qu'on se manque, qu'on se pardonne ou qu'on s'excuse, parce que c'est aussi ça, l'histoire, se dire c'est trop bête, peut-être.
Au final, en scène, donc c'est idiot.
Ouais. C'est hyper positif.
Il faut savoir non seulement pardonner, mais aussi excuser, parce qu'on ne sait pas, dans la même situation, comment on réagirait souvent face à ce qu'on critique.
Ah, alors ça, vous parlez un petit peu de vous, là, François, j'ai la sensation.
Je sais pas.
Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Gilles Lelouch, François Cluzet. Il est l'heure de vous présenter nos excuses.
Ah, bien sûr, déjà, désolé pour les fans de François Cluzet qui ont découvert que la carrière de leur idole allait droit dans le mur avec la révélation sur son prochain rôle, celui d'un mec drôle en pantacourt. C'est vrai que c'est un challenge. Désolé pour les comédiennes et les comédiens qui tourneront dans les prochains films de Guillaume Canet et qui ont découvert par la bouche de nos deux invités, François Cluzet et Gilles Lelouch, à quel point en tant que réalisateur il était dur et dictatorial à la grande famille du cinéma. Désolé enfin pour Gilles Lelouch qui a pris surtout un petit coup de vieux en apprenant grâce à notre spécialiste qu'il portait bien sa cinquantaine. Alors vous savez, sur France Inter, quand on a 50 ans, on reste un junior.
Merci à tous autour de la table, bravo. Nous finirons ensemble en salle mercredi le nouveau film de Guillaume Canet. Tout de suite, c'est les carnets de campagne.
Ah bah déjà, la semaine prochaine, vous aurez droit aux rediffusions de 5 excellentes émissions. Hein, celle avec Sophia Aram, Sylvain Tesson, Aurore et Daniel Auteuil, Philippe Besson, Tahar Benjelloun. Merci Léla, c'est vrai. Merci les amis pour cette semaine sans le pharaon. Le pharaon, on le retrouve
lundi
6 mai. Absolument. Bisous à suivre, Nagui. Comme tu l'as dit. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Excellente journée à l'écoute de France Inter.
Ciao.